Bonsoir, trois thèmes au centre de la tribune de ce soir, à savoir normalisation des relations diplomatiques entre Kinshasa et Kigali. Le Rwanda vient de nommer son ambassadeur en RDC 10 ans après la rupture des relations diplomatiques entre ces deux pays. Première réunion mardi dernier à Kinshasa du comité paritaire de suivi constitué du gouvernement et du CNDP. C'est l'une de trois structures qui font partie du comité national de suivi des accords de paix sur le règlement des crises à l'est de la RDC. Comité créé par décret du Premier ministre le 30 avril dernier. Et enfin, journée internationale de la liberté de la presse célébrée dimanche 3 mai dernier, avec comme thème cette année, médias, dialogue et compréhension mutuelle. Deux confrères sont avec moi dans cette émission pour en parler. Il s'agit de Bellard Mbouyi, il est directeur général d'Africa TV, une chaîne de télévision privée émettant depuis Kinshasa. Diana Gikoupa, il est directeur de publication du quotidien L'Avenir, paraissant à Kinshasa. Je ne suis pas seule à vous présenter cette émission. Vimaté avec moi dans ce studio. Ensemble, nous allons animer ce débat. Avant d'entrer dans le vif même du débat de ce soir, place d'abord à la revue de presse avec Alain Roux pour voir comment les journaux quinois ont analysé les trois thèmes retenus pour ce soir.
Bonsoir. Premier thème de cette revue de presse, normalisation de relations diplomatiques entre Kinshasa et Kigali. Le Rwanda vient de nommer son ambassadeur en RDC 10 ans après la rupture de relations diplomatiques entre ces deux pays. La Prospérité titre en manchette, nouvel ambassadeur rwandais à Kinshasa, Amandin Rugira nommé, Louis-Michel Fête. Le palmarès, quant à lui, note l'ambassadeur du Rwanda en RDC connu. Deuxième thème de cette revue de presse, première réunion mardi dernier à Kinshasa du comité paritaire gouvernement SNDP. La référence plus interroge comment le CNDP qui n'a pas été aux élections va entrer au gouvernement. La tempête des tropiques s'exclame, Joseph Kabila devant un dilemme se référant à la contestation de la délégation du CNDP reçue à Kinshasa. Troisième et dernier thème, journée internationale de la liberté de la presse célébrée dimanche 3 mai dernier avec comme thème cette année médias, dialogue et compréhension mutuelle. L'avenir écrit, la presse congolaise félicitée. D'après ce quotidien, la presse a une place spéciale et un rôle déterminant pour façonner l'avenir et changer le cours des événements.
Merci beaucoup Alain Roux pour cette revue des presse. On va juste placer un mot avant de commencer même notre débat de ce soir. Commençons par vous, Diana Gikoupa. Vous êtes directeur de publication du quotidien L'Avenir. C'est un journal qui paraît à Kinshasa, distribué aussi, je crois, à l'intérieur du pays.
Oui, et nous sommes sur le net aussi, donc lui à travers le monde.
Ok. Alors, quelle analyse faites-vous de cette revue de presse? Est-ce que la presse écrite a-t-elle été objective, juste en lisant les titres des différents journaux?
Oui, tout à fait. La presse a été objective. Elle n'a fait que rapporter les faits. Il y a très peu de commentaires. Il n'y a que des faits qui ont été présentés. Donc, la presse a été objective.
Bellard Mbouyi, vous êtes directeur général d'Africa TV. C'est une chaîne de télévision privée qui est née à Kinshasa. Y a-t-il, selon vous, un autre sujet qui a fait l'actualité cette semaine dont la presse n'a pas fait mention?
Bien, non, je ne pense pas. J'abonderai plutôt dans le même sens que Diana Gikoupa tout à l'heure. Il n'y a pas eu grand chose comme commentaire personnel. On s'est limité dans la plupart des rédactions à commenter les événements qui se sont déroulés, quoi. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus.
Merci voilà. Bellard. Premier thème de la tribune de ce soir, normalisation des relations diplomatiques entre Kinshasa et Kigali. Le Rwanda vient de nommer son ambassadeur en RDC 10 ans après la rupture des relations diplomatiques entre ces deux pays. Guy Mathieu, vous co-présentez avec moi cette émission. Autre actualité avec vous en rapport avec les relations entre les pays des Grands Lacs.
Oui, Kelly, sachez aussi que la RDC a désigné son représentant à la communauté économique des pays des Grands Lacs, CPGL en sigle. Il s'agit du professeur Tumba Luaba, qui est nommé depuis lundi dernier par le gouvernement congolais comme secrétaire exécutif chargé des programmes à la CPGL.
En réaction à la nomination de l'ambassadeur du Rwanda en RDC, le ministre congolais des Affaires étrangères, est-ce que c'est là dans le cadre de la normalisation des relations diplomatiques entre les deux pays? Pour Alexis Ntambwe Mwamba, cela n'est pas une surprise pour le gouvernement congolais. Le patron de la diplomatie congolaise déclare que le gouvernement congolais est également engagé dans le même processus. Il précise que le nom de l'ambassadeur congolais au Rwanda sera connu dans les jours qui viennent. Alexis Ntambwe Mwamba a été joint au téléphone par José Deschartminga.
C'est une étape tout à fait normale dans le cadre du processus que nous avons mis en place avec le Rwanda depuis quelques mois pour normaliser nos relations politiques et diplomatiques et relancer la CPGM. Donc il était convenu dans le cadre de ce processus qu'à un moment donné, nous allions procéder à un échange d'ambassadeurs. Le gouvernement rwandais, en conseil des ministres hier, a décidé de la nomination de son ambassadeur à Kinshasa. Puis ma collègue rwandaise, à la sortie du conseil des ministres, m'a appelé immédiatement.
Alors, est-ce que vous attendez nommer aussi un ambassadeur à Kigali?
D'abord, nous ne sommes pas liés par le calendrier de Kigali. Nous avons notre propre calendrier. Le processus chez nous aussi est engagé. Mais dans le processus chez nous, je ne pourrais vous dévoiler le nom de l'ambassadeur qu'à l'issue des différentes étapes qui sont conformes à nos règles, à nous.
Diana Gikoupa, directeur de publication du quotidien L'Avenir, quelle analyse faire de ce réchauffement des relations entre Kinshasa et Kigali?
J'estime que c'est une situation normale et on devrait en arriver là. Et comme disait quelqu'un, pour ne pas le citer l'honorable sénateur, il redit que le Congo et le Rwanda sont condamnés à vivre ça, parce que même si on avait les moyens, personne ne cherchera des grues pour déplacer le Rwanda et le mettre plus loin. Et même si on les mettait très loin, nous avons des relations diplomatiques avec des pays qui sont éloignés de notre surcroît. Ne pas avoir des relations diplomatiques avec un pays à côté, donc ça serait un non-sens. Mais donc, comme je lis souvent à le dire, c'est malheureux pour ceux, beaucoup de gens qui sont des politiciens, des économistes et même des militaires qui bâtissaient leur fortune sur l'éternel conflit Kinshasa, Kigali. Et je suis certain que pour ces gens-là, ce n'est pas une bonne chose. Mais pour le peuple congolais, le peuple rwandais, c'est tout à fait normal que les deux pays puissent ouvrir des relations, avoir des relations diplomatiques rompues depuis 10 ans. Et parce qu'il y a aussi des gens qui pensaient que entre Kinshasa et Kigali, il n'y a jamais eu que la guerre. Et pourtant, ce pays, à l'époque de la CPGL, il y a eu des très bonnes relations entre les deux pays. Donc, j'ai toujours été surpris, les gens pensent, quand on parle du Rwanda, les gens pensent que non, ce n'est pas possible, c'est le pays qu'on ne doit pas à tout prix fréquenter. Et qu'il y a, dans certains Congolais, le Rwandais était l'homme, l'Africain le plus infréquentable possible. J'ai entendu dans un débat de télévision, si c'était ma télévision, je refuserais que cette image passe, et quelqu'un qui dit, mais on a tapé un Congolais comme un Rwandais. C'est pour vous dire que donc, il n'y a que le Rwandais, et c'est l'homme le type à qui on peut infliger des traitements les plus inhumains, parce qu'il n'est pas congolais, ce n'est pas normal. Donc, les deux gouvernements viennent de démentir, parce que nous avions déjà une génération qui commençait à croire qu'entre le Congo et le Rwanda, il peut y avoir de mauvaises relations. C'est une bonne, très bonne chose.
Bélarme, vous êtes directeur général d'Africa TV, c'est une chaîne de télévision privée qui est née à partir de Kinshasa. Vous partagez le même point de vue que Diana Gikoupa?
Tout à fait. Non seulement je partage le même point de vue, mais en plus je dois dire que depuis que j'étais directeur du journal Le Potentiel, nous étions côte à côte avec Diana, mon voisin direct alors à l'époque, j'étais parmi ceux qui militaient le plus pour que ces relations puissent se rétablir. Je voyais vraiment tous les bienfaits que les deux pays pouvaient tirer de cela. Mais à l'époque, il y avait beaucoup qui s'y refusaient, malheureusement, car ils avaient fait de l'anti-rwandisme pratiquement une idéologie politique. Bien, aujourd'hui, les choses semblent s'harmoniser. Je dois dire que le Kigali était un peu plus demandeur de ce rétablissement que la RDC, qui certainement pouvait avoir ses raisons à l'époque. Bien, on ne va pas refaire l'histoire. Il faudra me rappeler que le Rwanda n'est pas son premier ambassadeur qu'il nomme depuis que la transition a été enclenchée. Le premier ambassadeur qu'ils avaient nommé à l'issue d'un conseil des ministres également fut rejeté par le gouvernement du Congo au motif que on devait d'abord soumettre sa candidature au Congo, ce qui n'avait pas été fait, ce qui est logique juste aussi tout à fait, pas du reste. Mais cette fois-ci aussi, si je suis bien le ministre Tambwe Mwamba, il y a eu un conseil des ministres au Rwanda. On a décidé de la nomination de ce monsieur comme ambassadeur au Congo. Malheureusement, Musseminali, ministre des Affaires étrangères du Rwanda, l'a appelé et on a rendu public immédiatement le nom de l'ambassadeur. Je ne pense pas qu'on ait soumis encore sa candidature au Congo. Ça, c'est allé un peu trop vite. Bien. Si cela a été accepté, tant mieux. Je me dis, c'est tant mieux qu'il reste à ce que le Congo puisse aussi désigner son nouvel ambassadeur. Je pense que tous les deux pays ont intérêt à voir ça avancer très vite. Je terminerai par dire que je ne veux pas citer un homme politique ou un acteur du milieu socio-économique, non, mais plutôt un chanteur, Koffi Olomide, qui, à l'issue d'une tournée au Rwanda, très critiqué ici, il a dit, écoutez, puisque nous avons un Congolais qui se bat contre les institutions de notre pays qui s'appelle Nkunda, et que nous soupçonnons le Rwanda de soutenir ce Congolais, puisque nous sommes ennemis au Rwanda, ces choses n'avanceront pas. Il nous suffirait de nous entendre avec le Rwanda pour qu'on résolve ce cas Nkunda. Voilà, moins de 2 mois après sa déclaration, tout est allé très vite et la situation semble s'être calmée.
Bélar Mbouyi, peut-on parler à ce stade de la normalisation des relations entre les deux pays?
Bien, sur le plan officiel, oui. Mais il s'agit entre le Congo et le Rwanda d'aller plus loin que le côté officiel. Il faut aller vers la réconciliation des cœurs. C'est-à-dire que les dirigeants de deux pays doivent pouvoir influer sur leurs populations respectives afin de comprendre que nous avons un destin commun. Je sais, pour avoir beaucoup visité la région des Grands Lacs, que côté rwandais, il n'y a pas grand-chose à faire sur ce plan-là, parce que les Congolais qui vivent au Rwanda n'ont jamais été dérangés sur ce plan. Je dois vraiment à l'honnêteté de le dire. Il y a même un quartier, je crois, de la commune de Nyabirambo, qui s'appelle jusqu'aujourd'hui Kanzaïre. Au dernier recensement à Kigali, c'est une population de 600 000 habitants, il y avait 80 000 Congolais. Donc, c'est surtout de notre côté, nous devons arriver, les autorités politiques, les médias, les acteurs de la société civile, nous devons arriver à un reconditionnement psychologique de notre population afin de comprendre que ce qui est passé est passé. Le Rwanda nous a certes fait du mal, mais il ne nous a pas fait que du mal au cours de notre histoire. Il nous a fait aussi beaucoup de bien aussi. Le Rwanda a envoyé ses meilleurs enfants se battre pour déboulonner Mobutu. Nous avons aussi fait beaucoup de bien au Rwanda. Nous avons accueilli, chaque fois qu'ils ont des conflits chez eux, notre pays a été la terre d'accueil de ceux qui sont en déroute, qui ne savent pas où aller. Depuis la révolution de 59. Donc, à partir de là, qu'enfin nous puissions tirer un trait sur le passé et entrevoir l'avenir avec bonheur, c'est vraiment une très bonne chose pour les deux peuples.
Diana, vous êtes d'accord avec Bélar qui dit que le travail de réconciliation des communautés doit beaucoup plus être fait ici au Congo qu'au Rwanda?
Bon, le travail doit se faire partout. Mais j'ai dit plus au Congo parce que c'est le Congo qui porte les stigmates de l'agression rwandaise à plus d'une reprise. Et nous le disions dans notre journal, je crois l'édition de ce matin, que je pense qu'il y aura très peu de Congolais qui passeront et qui pourraient entrer facilement à l'ambassade rwandaise. Ils le regarderaient de loin, et comme le chrétien regarde une mosquée, croyez, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans?
Comment peut-on expliquer cette attitude-là?
Mais justement, il y a eu une certaine éducation, ce que je disais ici, on allait vers la naissance d'une génération au Congo anti-rwandaise. Des gens qui croient que au Congo est plutôt en Afrique la nation la plus moins fréquentable, c'est le Rwanda. Alors, c'est pourquoi au Congo, on devra faire beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts pour que les Congolais acceptent. C'est vrai que ce n'est pas, on ne doit pas considérer ce qui est arrivé entre le Congo et le Rwanda comme un simple malentendu qu'on peut balayer d'un revers de la main. Mais c'est plus, les stigmates sont très puissants, sont très marqués, et qu'il faut faire beaucoup d'efforts. Donc, si on pense que bon, les relations diplomatiques suffisent et que la présence de l'ambassade, c'est cela la normalisation, non. La normalisation doit être beaucoup plus profonde et c'est un travail qui doit se faire. Et si on laisse ça au temps, je crains même qu'un jour qu'on ait des surprises, et connaissant la susceptibilité de Kigali, et qu'en n'ait rien d'état, que tout puisse s'avérer.
Diana Gikoupa, vous êtes chapeau que vous êtes directeur des publications du quotidien L'Avenir. Le ministre des Affaires étrangères, Alexis Tambwe-Mwamba, a affirmé que du côté congolais, le processus de nomination d'un ambassadeur au Rwanda est enclenché. Mais on a comme l'impression que quand il y a un problème à résoudre entre la RDC et le Rwanda, c'est toujours le Rwanda qui fait le premier pas.
Tout à fait. Le Rwanda fait le premier pas parce que le Rwanda est dans la peau de l'accusé. Dans cette histoire. Alors, Kinshasa, vous avez vu ce qu'il y a eu les opérations conjointes.
à Kinshasa, ça a créé une vague politique, ça a emporté des gens. Mais je pense qu'à Kigali, compte tenu aussi du genre du régime qui est là-dedans, il y a un peu plus d'unanimité qu'au Congo. Au Congo, on doit tout tourner, retourner, que dira l'opinion, que dira l'opposition, que dira la presse, et on doit tout tourner, et on doit voir qui nommer comme ambassadeur, et cet homme-là doit être disposé à accepter d'aller vivre au Rwanda. Donc, il doit, c'est quelqu'un qui doit être préparé à accepter que le Rwanda, c'est autant que le Congo Brazza, autant que le Tchad. Donc, c'est pourquoi qu'au Congo, on doit prendre beaucoup plus de précautions, alors que le Rwanda n'a vraiment pas toutes ces pressions-là, compte tenu de forme de régime. Vous savez que le régime congolais est beaucoup plus ouvert à la critique que le régime rwandais.
Oui, Bernard, il y avait des pommes de discorde entre les deux pays, parmi lesquelles la présence des FDLR ici chez nous, en République démocratique du Congo. Pensez-vous que cette nomination, la nomination du nouvel ambassadeur du Rwanda en RDC, peut avoir un impact sur le retour des FDLR au Rwanda?
Non, la nomination du nouvel ambassadeur en tant que tel ne peut pas avoir d'impact. Pris comme tel, je ne pense pas. Ce qui peut avoir de l'influence sur le retour des FDLR, c'est plutôt l'ensemble de la démarche, l'ensemble de cette normalisation, ce retour aux relations amicales, fraternelles, qui puisse faire que les deux pays puissent un jour se mettre ensemble, afin de mettre ensemble leurs efforts pour obtenir la neutralisation des FDLR. En fait, les FDLR font d'abord du tort aux Congolais. Ils n'ont pas encore fait du tort aux Rwandais. Le Congo a plus intérêt à neutraliser les FDLR au jour d'aujourd'hui que le Rwanda lui-même. Voilà.
Merci Bernard Mbouyi, directeur général d'Africa TV, une chaîne de télévision privée émettant à Kinshasa. Comment renforcer cet élan dans l'harmonisation des relations diplomatiques entre Kigali et Kinshasa?
Bien, il faut faire beaucoup d'efforts dans plusieurs secteurs. Je tenais à dire, mon collègue Diana a dit tout à l'heure que nous regarderons l'ambassade du Rwanda avec un peu, comment dire, avec un esprit un peu de réticence. C'est vraiment exact ce qui va nous arriver ici. Nous regarderons. D'abord, ça nous étonnera. Tiens, République rwandaise ici. Encore, ils aiment écrire dans leur langue, ils vont écrire là-dessus. République du Rwanda. Donc, on va regarder. Mais c'est quoi ce charabia qui nous revient encore ici, eux, dans notre capitale? Mais, pour nos frères qui, peut-être, ont le plus souffert de ces guerres, mais eux, ils comprennent plus, ceux du Kivu Nord et du Kivu Sud, ils comprennent plus l'importance qu'il y a à rétablir ces relations. Autant ils le sont comme des chats échaudés, mais autant ils en comprennent l'importance parce qu'ils vivent cette importance-là au jour le jour. Allez-y à Goma, regardez les bus de transport au Capi, c'est chaque jour des dizaines et dizaines d'allers-retours entre Goma et Gisenyi. Pareil pour Tchangougou Bukavu, du côté sud. Donc, nous commerçons avec le Rwanda, nos marchandises passent par là, en venant de Tanzanie ou de Nairobi, on passe par là. Donc, le gaz méthane qui est dans le lac Kivu, nous devons arriver un jour à l'exploiter en commun. Le Rwanda a menacé, et il a même commencé à exploiter seulement de façon unilatérale, pour nous pousser à nous mettre ensemble. En fait, nous traînons un peu les pieds. Mais je dois dire que moi, je souhaiterais peut-être un jour, pourquoi pas, mettre un grand concert de la paix ici dans cette ville, réunissant nos divas de la musique, Tchalamouana Ndili Abel côté congolais.
Je vous coupe pas la parole, c'est là. Ça, c'est une proposition pour renforcer cet élan dans l'harmonisation des relations diplomatiques.
Pas que dans les autres diplomatiques, dans la communion des cœurs, pour recréer la communion des cœurs. Vous imaginez Tchalamouana Ndili Abel de Sir Kairébois, sur une même scène, en train de dire aux Congolais, voilà, nous chantons ensemble pour la paix cette fois-ci. Ce serait quand même un geste vraiment très bien.
Diana Gikoupa, dernier mot par rapport à ce premier thème.
Oui, tout à fait. Je voulais dire qu'il faut à tout prix que ces relations s'établissent et il faut qu'on y travaille pour que ce soit des véritables relations et qui vont se concrétiser par des choses les plus simples. Mon ami Bellard, avec qui aujourd'hui nous avons parlé le même langage, curieusement.
Curieusement, ça nous étonne aussi.
Oui, nous avons parlé le même langage aujourd'hui.
Peut-être pour le premier thème.
C'est les signes des temps, ça montre que les choses s'arrangent. Si nous sommes venus dans la diversité Rwanda, et là, je suis sûr qu'on allait s'affronter. Donc, maintenant, je vois que les choses vont normalement et on a parlé sur le... Et je pense que ça sera ainsi entre les joueurs congolais, rwandais, les musiciens, tout ce qui est. Donc on doit se dire que nous sommes des voisins et nous resterons voisins.
Merci Diana Gikoupa. Deuxième thème de notre débat, première réunion mardi dernier à Kinshasa du comité paritaire de suivi constitué du gouvernement et du CNDP. C'est l'une de trois structures créées pour la mise en œuvre des accords conclus entre le gouvernement central et les groupes armés du Sud et Nord Kivu. Les comités paritaires font partie du comité national de suivi des accords de paix sous le règlement des crises à l'est de la RDC, comité créé par décret du Premier ministre le 30 avril dernier. Mais avant de parler de cette première réunion, il faut annoncer que les délégués des groupes armés du Nord et Sud Kivu sont à Kinshasa depuis mercredi soir, sur invitation du gouvernement, précise le porte-parole de ce groupe armé.
Oui, Kelly, Didier Bissaki soutient également que les discussions avec le gouvernement devraient porter sur les modalités de mise en application des accords de paix signés en mars à Goma. Les groupes armés ont quelques revendications dans le cadre de ces accords, affirme-t-il. Il parle notamment des récompenses qu'ils devraient recevoir par rapport au travail rendu. Ils s'interrogent sur leur avenir au sein des forces armées de la RDC.
À la coopération internationale, on indique que les travaux pourraient commencer aujourd'hui, vendredi, suivi des accords de paix sur les règlements des crises à l'est de la RDC. Première réunion mardi dernier à Kinshasa de l'un de trois comités paritaires de suivi. Il est constitué, comme je l'ai dit, du gouvernement et du CNDP. Les travaux de ce comité paritaire ont démarré au ministère de la coopération internationale et régionale. Les travaux se sont déroulés à huis clos. Le rapporteur de cette structure précise que pour cette première rencontre, il a été question de points urgents, importants et pratiques. Des points comme le passage du CNDP de mouvements politiques aux militaires en partis politiques ont été abordés, affirme-t-il. L'abbé Jean Bosco Bahala est au micro de Noéla Louzito.
La première rencontre avait d'abord pour but de passer en revue le programme, le calendrier de mise en œuvre de l'accord qui avait été adopté à Goma, le 23 mars, et de voir par exemple quels sont à court terme les points de l'accord qui devaient être mis en œuvre à moyen terme et à long terme. Nous avons d'abord passé en revue les points les plus importants, comme vous le savez, c'est le passage du CNDP de mouvement politico-militaire à parti politique. Quelles sont les conditions dans lesquelles cela peut se faire? Il y a la question importante de la libération des prisonniers, de la prise en charge des blessés de guerre et des orphelins. Il y a la question justement des administrations parallèles qui avaient été mises en place, des conditions de retour des réfugiés et des déplacés internes.
Réaction du côté du CNDP avec vous, Guy Maté.
Oui, Kelly, de son côté, le CNDP attend du gouvernement la réalisation de ses engagements. Il s'agit notamment de l'intégration des cadres de l'ex-mouvement rebelle dans le gouvernement. Écoutons le chef du département politique du CNDP, Jean Mouniampenda, qui nous parle des revendications formulées par son parti à l'endroit du gouvernement.
Le CNDP a fait une analyse profonde de la situation. On voudrait éradiquer définitivement dans notre pays les causes de rébellion récurrentes. Le FARDC a une tâche lourde pour l'instant de lutter contre les forces négatives du FDLR. Il faut qu'il y ait cette tracasserie qui incite à l'exclusion ethnique. Nous avons demandé que ça s'arrête. Nous avons également demandé, en disant que l'exclusion ethnique de tous ou de n'importe qui d'ailleurs, c'est la mauvaise gouvernance. Au CNDP, nous avons dit que le CNDP va participer à la vie politique en tant que parti politique et dans d'autres instances.
Rappelons que ces concertations entrent dans le cadre des accords de paix signés en mars à Goma entre le gouvernement et ses groupes armés. Alors, Bélan Bouy, directeur général d'Africa TV, une chaîne de télévision privée émettant à Kinshasa. Selon vous, quel résultat peut-on attendre de cette rencontre?
Bien, avant que je ne dise que je tente d'attendre de cette rencontre, je dois quand même dire sans fausse modestie que depuis 2006, à l'époque où j'éditais encore l'hebdomadaire Écho du Grand Lac, j'étais resté à Mérite de Péril, pratiquement la seule personne dans cette ville à appeler de tous ses voeux une négociation politique avec le CNDP. Je passais à l'époque pour un extraterrestre, quelqu'un qui nage en pleine rêverie. J'ai dû passer M. Congo Web au journal télévisé pour défendre cette opinion-là. Aujourd'hui, finalement, plus de 3 ans plus tard, les faits me donnent raison, je n'en suis que fort aise. Bien, quel résultat on peut attendre de ce qui se passe actuellement? Eh bien, je ne doute pas un seul instant que ça va donner un bon résultat. Pourquoi? Parce que le CNDP a changé de figure. Ce n'est plus le mouvement radical que dirigeait Laurent Kunda. Décidément, selon toute ressemblance, la page Kunda est définitivement tournée. Il y a à la tête du CNDP des gens engagés à bâtir une nouvelle histoire aux côtés du gouvernement de la République, aux côtés du président de la République. je ne doute pas un seul instant que ça puisse ne pas bien marcher. Bien voilà, je suis convaincu qu'ils vont intégrer le gouvernement, on va rester l'autorité de l'État partout au Nord Kivu où ils détenaient des territoires, je ne doute pas un seul instant du succès de cette opération.
Oui, Mathieu, vous avez une question à poser?
Oui, je pose une question à Bellard. Vous savez, lorsque les CNDP se battaient, il formulait un certain nombre de revendications. Et si aujourd'hui, ces revendications ne sont pas prises en compte par les gouvernements centrales, ne pensez-vous pas que les CNDP pourraient recourir au même moyen, le moyen des armes?
Non, je ne pense pas, pas du tout. Je ne pense pas que le gouvernement puisse pas répondre positivement à ces revendications. Alors, je vous disais à l'époque où je réclamais pratiquement seul dans Kinshasa ici, les négociations directes avec le CNDP, je ciblais fondé les revendications du CNDP. C'est ça vraiment qui me caractérisait en plus. Je ciblais qu'au fond, sur le fond le problème, les revendications du CNDP, c'était quoi en fait? C'est d'abord le retour des réfugiés, donc ceux qui sont essentiellement en Ouganda et au Rwanda, c'est-à-dire les ressortissants de la minorité Tutsi, qui sont les seuls réfugiés du Congo qui ne sont pas rentrés au pays pendant la transition. Il n'y a pas eu de signature d'une tripartite entre le HCR, le pays d'origine du Congo, et les deux pays d'accueil afin de se revenir. Partout ça a été fait, sauf là-bas. Voyez-vous.
Mais c'est alors, pas la seule revendication.
Non, c'est pas la seule revendication, la première. La deuxième, c'est que lorsqu'ils rentrent, ils trouvent un milieu sécurisé où ils peuvent vivre. C'est-à-dire un milieu débarrassé de une pyramide de leur idéologie génocidaire. Une pyramide, c'est des groupes armés foncièrement mortellement anti-Tutsi. Donc, si ces sujets-là arrivent, trouvent des milieux qui sont un CCDF de l'air, ils ne pourront pas vivre. Il faudrait casser la menace de l'air. Et enfin, arrêter avec le discours de haine ethnique contre une minorité Tutsi qui avait peur et elle avait raison d'avoir peur au regard du passé récent qu'il venait de vivre. Bon, ces revendications-là, depuis l'accord de Goma, ben, tout le monde s'est mis d'accord qu'on ne pouvait pas ne pas permettre à des Congolais de venir dans notre pays.
Diana Gikoupa, directeur de publication du quotidien L'Avenir, s'exprimant mardi dernier dans notre émission Dialogue entre Congolais, Jean Moniapenda, chef du département politique du CNDP, a affirmé que son parti ne reprendra plus les armes. Est-ce que vous accordez un crédit à ces propos?
Oui, mais le CNDP peut nous plus reprendre les armes, comme ce fut le cas avec le RCD, le MNC et tout ça, mais il y a eu le CNDP. Mais il faut éviter que le CNDP s'engage dans le processus démocratique, politique, normal, et qu'il y ait un autre CNDP. C'est ça le problème. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y ait d'autres CNDP qu'on sort? Mais nous, je constate que le CNDP nous a déjà engagés dans cette voie ici. Le CNDP, Bellard vient de le rappeler, avait des revendications, même si parfois il se contredisait parce que le CNDP demandait à ce qu'on puisse faire partie les FDLR, en même temps lui créer un front. Le gouvernement était partagé pour aller tous lutter contre les FDLR, d'un côté lutter avec le CNDP, dire que les autres là devraient trouver un millier assaini de mais la famille des conservatoires lui-même et les autres, ils sont tous, ils vivent quand même là-dedans, parfois même à côté des FDLR. Donc, je constate que c'était un habillage pour arriver au fond du vrai problème, et le CNDP vient de le dire très vachement, participer à la vie politique, pas seulement comme parti politique, mais entrer dans les institutions. Et si aujourd'hui, on sait que pour entrer dans les institutions, c'est pas facile. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas être ministre si je ne suis pas membre d'un parti qui a des députés, ainsi de suite. Mais si par la guerre, on peut facilement entrer au gouvernement par effraction, et demain il y aura un autre mouvement qui va chercher à entrer au gouvernement par cette voie-là. Or, avec les CNDP, c'était l'occasion ou jamais de dire faisons la politique par le moyen électoral comme on l'a fait en 2006. Mais aujourd'hui, si les CNDP, sans appartenir à une quelconque majorité, même s'il doit signer dans l'AMP ou dans Palou ou dans l'UDEMO,
Mais ce n'est pas l'obligation, je signe et j'entre au gouvernement. Si l'entrée au gouvernement, c'est l'objectif à atteindre, enfin, qu'est-ce qui m'empêcherait moi demain de relever la rébellion de mon élite chez moi ou qu'une autre, et pour que je puisse être pris en compte pour entrer au gouvernement.
Donc, vous n'êtes pas d'accord de l'intégration du CNDP dans le gouvernement?
Je suis d'accord pour que le CNDP devienne parti politique.
Et non pour que le CNDP intègre le gouvernement?
Je suis ahuri, étonné que le CNDP fasse partie du gouvernement.
Mais c'est au nom de la paix.
Mais justement, c'est ça, au nom de la paix. Et demain, il y aura un autre mouvement. Et pour au nom de la paix, je peux aussi faire ma petite rébellion au Kwilu. Je vous imposer la paix et je serai obligé d'entrer moi au gouvernement. Ça serait la voie la plus facile. Parce que maintenant, se faire élire, ce n'est pas n'importe qui peut se faire élire. Ceux qui sont venus par le RCD, le MLC, au consort, annoncent l'expérience et les autres entrent par le moyen le plus facile. Et demain, je pense que faire la guerre et entrer au gouvernement, ça sera le moyen le plus facile. Et le Congo ne sera pas sorti de l'auberge.
Mais là, vous avez un mot à ajouter par rapport à tout ce que Diana vient de dire.
Oui, je dirais ceci à ce propos-là. Il a parlé de la famille de Laurent Kunda, qui sont des Tutsis, qui sont là tranquillement. Ce n'est peut-être pas aussi vrai que cela. Laurent Kunda, Nigo, pour parler que de lui, a perdu 51 membres de sa famille en un seul mois. Sa mère n'a eu la vie sauf que suite à une fuite perdue dans les forêts. Aujourd'hui, vivent tous dans la province. Je n'ai fait qu'à démontrer ça. C'est pas pour rien que ce jeune homme venu de l'université de Boutène de Rwanda est allé s'engager dans une rébellion étrangère. Parce qu'au moins, cette rébellion-là avait, selon lui, l'idéal de combattre ce genre d'idéologie. On le sait de l'Intiram, ils ont fait 1 million de morts dans leur propre pays en 3 mois. Alors, quand ils trouvent d'autres Tutsis à massif ses retours, qu'est-ce qu'ils empêcheraient de faire ça? Le chef de Baoundé, la Bachali, a eu à sauver des jeunes Tutsis qui avaient été massacrés par centaines à Mokoto à l'époque de Mobutu est encore au pouvoir. Donc, c'est une raison
pour entrer au gouvernement.
Non, écoutez, c'est une raison quand même valable pour revendiquer. Aujourd'hui, pendant la transition, il y avait plus ou moins 800 000 Congolais dans les 9 pays frontaliers. Eh bien, pendant toute la transition, on a signé des accords tripartites entre le HCR, le pays d'accueil et le pays d'origine. Sauf pour les Tutsis du Rwanda et de l'Ouganda. Vous trouvez que ça ne peut pas pousser certains Tutsis à revendiquer? Quand vous sentez votre population aussi indexée, c'est normal. Nous avons la seule communauté du pays qui a été traitée des microbes, de la vermine, à éradiquer avec méthode et détermination. Je ne citerai pas par qui.
Et donc, Bernard, vous êtes d'avis que les CNDP doivent faire partie du gouvernement?
Je trouve ça normal. En fait, ce n'est pas une revendication que moi je formule. Mais si le chef de l'État estime qu'il veut donner un signal fort à cette communauté qui s'est sentie en marge de la communauté nationale, sentir fier d'appartenir à la nation, il fait cette ouverture-là, c'est un geste encouragé. Partout il y a eu des rébellions, lorsqu'ils ont fini par leur tendre la main, très souvent on leur a tendu la main pour intégrer au gouvernement. C'est le cas au Burundi, nous n'avons pas inventé la roue.
Pour boucler ce deuxième thème, Diana Gikoupa, est-ce que ces concertations entre le gouvernement, le CNDP et les groupes armés du Nord et Sud Kivu sont susceptibles de ramener la paix dans les deux Kivu?
Je constate que malheureusement non. Parce que, en fait, ces négociations ont été engagées sous forme d'un San Citibus. Alors qu'on pensait que, comme on dit dans l'hymne national, pour de bons prénoms, le plus bel élan, on ne prendra jamais de là. Il faudra toujours renégocier, sortir de la constitution pour faire plaisir, pour faire entrer, pour restaurer la paix. Alors que nous avons un cadre pour que chacun puisse faire ses revendications. On ne doit pas toujours faire des revendications. Mon peuple est ici, nous sommes martyrisés, nous sommes ici, et la solution c'est la guerre pour martyriser davantage des gens. Moi je pense que le fait qu'on donne une prime à la guerre, on se retrouvera un jour ici, et que vive à jamais la radio KP, et qu'on se retrouvera ici, on reparlera d'un autre mouvement qui aura les mêmes revendications. Parce que je ne vois pas en quoi, en grande partie, les revendications du CNDP diffèrent de celles du RCD.
Merci Diana. Notre dernier sujet de ce soir porte sur la journée internationale de la liberté de la presse célébrée dimanche 3 mai dernier, avec comme thème cette année, médias, dialogue et compréhension mutuelle. Les possibilités qu'offrent les médias de favoriser le dialogue, la compréhension mutuelle et la réconciliation constituent en 2009 le thème de la Journée mondiale de la liberté de la presse célébrée par l'UNESCO. Pourquoi avoir choisi ce thème? Quelques éléments de réponse avec vous, Guy Maté.
Oui, Kelly, dans son discours à l'occasion de cette journée, le directeur général de l'UNESCO estime que dans les mondes contemporains, où les forces de la mondialisation accélèrent l'interaction entre les peuples, l'une des principales difficultés consiste à dépasser les différences culturelles pour communiquer. Pour Koichiro Matsura, seul un média libre, c'est-à-dire un média dynamique, indépendant, pluraliste, inclusif et équitable, dont la rédaction est dynamique, est libre et à l'abri de la censure et de l'influence d'intérêts politiques, économiques ou autres, peut intrinsèquement contribuer au dialogue et à la compréhension qui transcende les barrières. Par ailleurs, les médias libres sont essentiels pour fournir des informations et des connaissances indispensables à une participation éclairée et démocratique et à une bonne gouvernance.
Pour sa part, le nom de la presse du Congo par l'entremise de sa présidente Chantal Kanyombo a exhorté le pouvoir public au respect du cadre juridique de l'exercice de la liberté de la presse dans notre pays. Elle a dénoncé les décisions de suspension des organes de presse et les conditions de travail des journalistes. Chantal Kanyombo a profité de cette occasion pour plaider l'amélioration de ces conditions. Bélar Mboui, quel est l'apport des médias congolais dans le renforcement du dialogue et de la compréhension mutuelle?
Eh bien, les médias ont un effort important à faire.
Les médias congolais?
Les médias congolais ont un effort important à faire. Je constate quand même, heureusement sur ce plan, que nous n'avons plus de titres enflammés qui poussent à l'affrontement. Quand vous lisez la plupart de nos tabloïds actuellement, il n'y a pas encore longtemps, moi j'ai tout ça dans mes archives, vous lisiez dans certains shows, quel monde j'ai vécu. Je lisais en 2003 encore, à la une des deux journaux parisiens Kinshasa.
Oui, pour une bonne compréhension, les tabloïds, ce sont les journaux.
Les journaux, voilà.
Pour nos auditeurs, pour qu'ils comprennent bien.
Tout à fait, merci Kelly. Bien, voilà, je lisais, je lisais ça dans mes archives, à la une des deux journaux parisiens Kinshasa, des femmes tutsi pour empoisonner les autorités congolaises. C'est titré à la une comme ça. Alors, un jour, je me trouve au grand marché, il y a une femme qui a graissé par tout le monde, non, il a la forme de tutsi, voilà, c'est l'une qui sont venues pour empoisonner nos autorités ici. Renseignement pris, c'était la fille d'un général du Congo-Brazzaville, dont la mère est peule du Sénégal, et les peules du Sénégal ont empoisonné des tutsis. Depuis assez longtemps quand même maintenant, les médias ont cessé ce genre de pitrerie, en tout cas, ils ne se livrent plus à ce genre de d'informations.
Il y a une certaine amélioration.
Un certain adoucissement, et ça, ça peut pousser quand même les gens à aller vers l'avant, dans la paix, la communion des cœurs, je crois bien.
Merci Bella. Guy Maté, une question à poser à Diana.
Oui, Diana Gikoupa, comment, selon vous, peut-on améliorer ses rôles des médias en République démocratique du Congo?
Le Congo, c'est un pays où on croit souvent qu'avec des incantations, on peut tout obtenir. C'est le pays où on vous dit, mettez la main sur la télévision, les ondes tombent, vous êtes guéri, etc. Et on croit que tout arrivera comme ça, même la liberté de la presse, et on croit que ça peut vous arriver comme ça, sans effort. Oh, je constate vraiment qu'il n'y a pas assez d'efforts pour qu'il y ait cette liberté de la presse. Et ces efforts, à partir de vos propres organes. Lorsque vous êtes dans un organe, vous dites, vous réclamez la liberté de la presse. Et votre liberté, c'est tout simplement lorsque vous écrivez et vous plongez votre plume dans du vitriol contre les institutions, contre le gouvernement, contre un ministre. Mais votre journal est proche d'un leader de l'opposition contre lequel vous ne pouvez rien dire. Quoi qu'il fasse, là, vous n'avez pas la liberté de la presse. Votre liberté de la presse, c'est unilatérale pour lorsque vous attaquez. De même, pour les organes proches du pouvoir, ils sont libres à n'attaquer que l'opposition par rapport à ce que... Donc, chacun, les organes de presse sont dans des camps politiques. Or, embrigadés dans des camps politiques, il est difficile de faire de la liberté de la presse. Tous ceux qui ont parlé de la liberté de la presse, quand je le regarde en face, j'ai dit, mais nous, on en parle comme de quelque chose de comme ça se passe ailleurs. Et on lit d'ailleurs tel auteur en France, en ceci, en cela. Mais au Congo, il n'y a pas un véritable exemple de liberté de la presse. Moi, je ne la vois pas. Oui. Les journalistes doivent commencer à se libérer dans leurs propres organes d'abord.
Oui, et donc vous voulez dire que vous n'êtes pas libre dans votre organe
de presse. Mais tout ça, c'est pas. Comment voulez-vous que quelqu'un soit libre lorsqu'il ne peut même pas être en mesure de quitter, d'aller couvrir un événement qui se passe à Kinshasa, par exemple. Ça, c'est la moindre des choses pour un journaliste soit libre ou qu'il donne. Le fait d'avoir des sources d'informations, ça vous libère. Mais lorsque vous avez difficilement une information, ou pour aller couvrir une information, quelqu'un doit vous transférer, quelqu'un doit vous permettre d'y aller, vous allez être libre par rapport à cette personne, je ne pense pas. Donc, je pense que la presse congolaise, à 90%, n'est pas libre.
Mais, à ce que je sache, le groupe Avenir a quand même des moyens.
Oui, il y a les moyens, mais après les moyens, il y a d'autres contraintes.
Entre autres, ce n'est pas un secret.
Non, les contraintes, c'est quoi? C'est que nous vivons dans un environnement politique congolais. Dans un environnement politique congolais, on n'est pas, aujourd'hui, en tant que quelqu'un du journal national, je ne peux pas, d'ailleurs, peut-être même que c'est le principe qui, j'ai suivi un professeur de l'IFACI, dans un séminaire, qui dit, les intérêts de la maison sont au-dessus de la déontologie et de l'objectivité. Mais c'est tout dit. C'est tout dit. Donc, vous ne pouvez pas, semble-t-il, scier sur la branche sur laquelle vous êtes assis. Et à ce moment-là, lorsque vous partez de ce principe-là, quelle liberté vous allez avoir?
Et qu'est-ce que vous proposez?
Ce que je propose, c'est que nous ayons des médias de plus en plus libres. C'est-à-dire quoi? La liberté des médias vient dans l'objectivité de donner l'information telle qu'elle est et de moins en moins l'information commentée, l'information orientée. Et il n'en a pas assez dans nos journaux, il n'en a pas assez sur nos chaînes de télévision.
Bélan Bouy, directeur général d'Africa TV, une chaîne de télévision privée émettant à Kinshasa. Donald Baya, président de Journalistes en danger, a sur nos antennes exprimé des inquiétudes parce que, je le cite, les pouvoirs politiques et financiers constituent une menace quant à la crédibilité des médias en RDC. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est tout à fait exact, je le soutiens totalement. Parce que la liberté de la presse au pays, si je dois dire, bon, je dois dire qu'elle est fermement menacée aujourd'hui. Pourquoi? C'est vrai, il y a des médias qui sont peut-être proches de l'opposition, d'autres qui sont proches du pouvoir en place, mais les médias qui critiquent pour les partis d'opposition, les leaders d'opposition, n'ont pas tellement d'inquiétudes à avoir. Du moment que ceux-là, ces derniers, ne disposent pas de l'impérium pour agir contre eux. Alors, c'est pourquoi la liberté de la presse se mesure plus généralement lorsque la critique de ceux qui sont au pouvoir est aisée et libre. C'est surtout ça. Or, que voit-on aujourd'hui? Moi, je suis pour origine la presse écrite, moi aussi. Quand je compare aujourd'hui la presse écrite, celle que je la vois aujourd'hui, et celle qu'elle était il y a encore 5-10 ans, je constate qu'il y a une évolution assez dangereuse aujourd'hui. Il n'y a plus parmi les majors, je ne dis pas qu'ils font mal leur travail, ils font bien leur travail, mais ils se sont pratiquement tous alignés sur le pouvoir en place. Parmi les journaux qu'on peut appeler les majors, vous voyez, il n'y a pratiquement plus un journal qui ait une opinion opposée au pouvoir en place parmi les grands journaux du Congo. Il n'y en a plus un seul. Alors là, c'est une dérive assez inquiétante. Ça, c'est sur le plan de la presse écrite. Sur le plan de l'audiovisuel. L'audiovisuel étant beaucoup plus sensible, nous nous rendons compte que notre tutelle, ce n'est peut-être pas, en réalité, le ministère de la communication, ce sont les services de sécurité. Combien de fois, moi je dirige une chaîne de télévision, vous organisez une émission, ce n'est pas le ministère qui vous appelle, c'est l'ANET qui vous appelle. Arrêtez ce programme. Mais ça veut dire quoi ça?
Mais là, vous proposez quoi concrètement pour améliorer les travaux des journalistes en RDC?
Laissez-moi d'abord terminer ce
qu'on a plus beaucoup de temps, nous sommes presque à la fin de notre émission.
Je vais dire ça, c'est quand même important. Regardez, il y a aussi une télévision qui avait une liberté de ton. Très bien reconnu avec Mitesa Molière TV. Regardez ce qui lui arrive. Sa fréquence est confisquée par un puissant du régime. Vous imaginez, il y a un jugement en sa faveur.
Ça n'est pas vous.
Non, ma fin, on connaît tout ça qui appartient à la télévision qui a pris la séquence de Molière TV. Une résolution de l'Assemblée nationale a demandé au Premier ministre d'agir pour remettre la séquence d'autrui à Molière TV. Ça n'a pas été exécuté.
Mais qu'est-ce qu'il faut?
La liberté de presse est vraiment menacée.
Qu'est-ce qu'il faut en l'air, parce qu'on doit conclure l'émission, c'est vraiment la fin.
Voilà, tout à fait. Ce qu'il faudrait faire, c'est que franchement, que ceux qui peuvent avoir les moyens de mettre en place des médias qui pourraient s'exprimer de façon plus libre, les mettre vraiment en place, qu'ils comprennent que la presse, c'est certes un combat politique, mais c'est aussi un investissement qui peut être rentabilisé.
Diana, un mot aussi.
Oui, je voudrais tout simplement dire, en ce qui concerne le dernier point que j'ai évoqué de l'arc, mais celui qui a la fréquence, ce n'est pas lui qui a attribué la fréquence. Si Molière doit savoir, c'est au gouvernement congolais qui a attribué la fréquence, au ministère. Mais c'est lui qui a pris la fréquence, soit-il le premier ministre. Mais ce n'est pas lui qui s'est offert de la fréquence. On ne la prend pas dans la
le jugement du
tribunal. Merci, merci, merci de la bruit, c'est la fin de notre émission. Merci à Sylvain Matundu qui était à la technique, Alain Hurung assisté de Samuel Kachak et c'est à la réalisation de cette émission. Nous n'oublions pas toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Jean-Claude Tumbakamanga et Guy Maté qui anime avec moi ce débat. En leur nom, c'est l'écouter, vous dit merci et vous souhaite un excellent week-end sur Radio Kati.